Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Donc il s'agissait d'une session assez oubliée du 5 mars 1959 au studio de Zurich. Il était accompagné par Henry Grimes, évidemment, à la contrebasse, et le très rare Pete LaRocca, qui avait d'ailleurs quelques histoires de procès avec Chick Corea, puisque Chick Corea avait sorti un album sous le nom, et en fait c'était Basra de Pete LaRocca. Bon, voilà. Donc nous reviendrons sur toutes ces faces et ces différentes périodes de Sonny Rollins cet été. Nous aurons le temps d'approfondir cet hommage qui, évidemment, un des derniers, si ce n'est le dernier géant de cette musique. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Giovanni Mirabassi, le pianiste, pour son nouvel album Più Avanti. Et puis nous avons aussi Cécile Faucresson qui est dans le studio avec nous et qui, si elle a envie, et rien ne l'oblige, mais rien ne l'empêche non plus, de prendre la parole au cas où. Donc merci Giovanni. Buonasera.
Buonasera. Grazie, molto bene, grazie. Merci pour l'invitation.
Eh bien, écoute, c'est nous. Alors, la première fois qu'on s'est parlé, tu t'en souviens pas, mais c'était il y a très très longtemps, et à ce moment-là, tu accompagnais la chanteuse Mélanie Dahan. Et c'était pour un concert près de la gare du Nord ou de l'Est, boulevard de Sébastopol, je crois.
Effectivement, je ne m'en souviens pas. Enfin, je me souviens de toi, mais je ne me souviens pas de ce jour-là. Et du fait que j'accompagnais Mélanie, que j'ai accompagnée très longtemps. Alors, elle m'arrive encore aujourd'hui parfois d'accompagner.
Bon, elle va bien, j'espère.
Et elle va plutôt bien, on va dire.
Bon.
On tournait ces jours-ci.
Très bien. Parfait. Alors, donc, Più Avanti. Alors, moi, j'ai une histoire un peu personnelle avec cet album, puisque j'ai le premier qui est devenu un collector.
Absolument.
Semble-t-il. Parce qu'en fait, c'est mon père qui me l'a fait découvrir.
Et ben voilà, c'est arrivé aussi à mon épouse.
Parce que
son père lui a fait découvrir ce disque et bah, Galeotto fu il disco et qui le suonò.
Voilà, parce que bon, mon père, évidemment, qui n'est plus là depuis longtemps, est un ancien résistant déporté, voilà, qui a échappé à tout ça, donc. Évidemment, le chant des partisans a une signification un peu émotionnelle en ce qui me concerne. Donc, bon, voilà. Alors, raconte-nous un peu la genèse à la fois du premier et puis de cette reprise finalement. Pourquoi que s'est-il passé pendant tout ce temps?
Alors, est-ce que nous avons quelques heures devant nous?
On a du temps.
Bon, très bien. Alors, le premier, on va commencer par le commencement. Le premier, eh bien, je suis un très jeune homme, j'ai 16 ans, par là. Je déambule dans ma ville d'Italie, qui s'appelle Perugia, à une époque où je n'avais pas idée que j'allais devenir un pianiste de carrière, ni d'ailleurs que j'allais vivre à Paris pendant 35 ans. Et dans ma déambulation, je passe devant un jardin public où il y a un groupe chilien qui a été exilé dans la région d'Italie d'où je viens et qui va retourner au pays puisque Pinochet est tombé et décide de faire un concert qu'il offre à la ville. Ils ont les autorisations vite fait, ils montent une scène et ils jouent. Et je passe par là, et ces gens-là commencent à jouer Il Pueblo Unido Jamás Será Vencido, qui est d'ailleurs le premier morceau de du disque, et qui est aussi le premier morceau de ce répertoire que j'ai commencé à travailler. En rentrant à la maison, je me suis dit, moi, quand je serai grand, je vais faire cette musique-là, je vais jouer de cette musique-là. Bon, il va de soi que j'avais déjà des fortes sympathies pour une certaine vision humaniste de la vie, on va dire, ce qui d'ailleurs m'a valu quelques accros avec les fascistes du Bahut, puisqu'en Italie, des fascistes, il y en a plein, et il y en a toujours eu, et ils sont bien fiers de l'être. Et ceux qui se font tatouer Mussolini sur le bras, je vous parle des vrais fascistes, voilà. ceux qui n'ont toujours pas ouvert le livre d'histoire. Et du coup, je commence à bosser ce truc. Je fais ma toute première séance d'enregistrement, je devais avoir quelques mois après, et j'ai enregistré ce titre, dans une version dont je me rappelle à peine, qui était très différente de celle que j'ai enfin enregistrée des années après. Et ça m'a toujours trotté dans la tête, et puis ça m'a paru toujours très évident qu'il fallait que j'y aille seul, faire ce truc, aller chercher ces thèmes incroyables qui ont à l'intérieur d'eux-mêmes, comme dans l'ADN, cette capacité de réunir les gens autour d'une idée. Et voilà, puis les années ont passé, j'ai quitté l'Italie, j'ai fait des tas de choses diverses et variées. En arrivant à Paris, j'ai pas mal galéré, d'ailleurs, que cela soit dit en passant, c'était une époque où il fallait des papiers, même pour un Italien, où, moi je n'avais pas fait grand chose, j'avais jamais vraiment enregistré de disques, donc il a fallu tout de même arriver à pénétrer le milieu, qui était très 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 fermé, en ces temps-là plus qu'aujourd'hui, je pense. Puisque il y avait, moi je suis arrivé à un moment où il y a une starification du jazz d'un côté et la niche parisienne qui ne voulait absolument pas de nous. Aujourd'hui, pour avoir une date dans un club parisien, il faut être célèbre, il faut avoir une sortie d'album, une attachée de presse, un label, un truc, un machin, enfin voir quelque chose. Et c'est un peu avec ma génération que c'est arrivé, alors que avant. Les gens faisaient le tour des caves de jazz, ils allaient écouter des musiciens célèbres qui jouaient avec des gens locaux. Mmh. Et ces gens locaux, ils avaient la niche des clubs. Et quand nous, on est arrivés avec nos belles gueules et nos projets artistiques super pointus, et la radio et les trucs, etc., surtout nous, les Italiens, parce que ça, on a été très à la mode à un moment donné, ça a quand même fait des étincelles. Enfin bon... finalement, j'arrive à enregistrer un disque en trio. Je cherche un producteur pendant un an. Daniel Humer, qui avait été président du jury d'un concours que j'avais gagné, me dit « Va chercher ce gars-là, parce qu'à mon avis, ça va lui plaire. » J'y vais, je rencontre Philippe Guilmetti, qui vient d'ouvrir Sketch, et qui me dit « Je veux sortir ton disque en trio. » Incroyable, on m'a dit « Je vais sortir ton disque en trio. » Parce que la réponse lambda, standard, c'est non dans le monde de la musique. Et puis un jour, il y en a un qui dit oui. Quand il y en a un qui dit oui, il y en a plein d'autres qui pourraient dire oui. Mais tant qu'on n'a pas ce premier oui, c'est que des non. Et il me dit, tu es jeune, j'aimerais bien faire un truc avec toi, faire un contrat sur plusieurs disques. Tu as d'autres projets? Et moi, j'ai dit immédiatement, si, moi je veux faire un disque de chant révolutionnaire en solo. Les yeux du producteur ont brillé, et nous voilà partis au studio La Buissonne pour enregistrer ce premier opus. Avec toutes les difficultés d'un jeune pianiste qui se retrouve à faire un piano solo, ce qui est quand même l'exercice le plus terrible qui soit. J'ai envie de dire même plus de jazz qu'ailleurs, puisque on est sa propre référence. Il n'y a pas de texte. Et donc, je galère comme un malade. Finalement, je registre cet album d'un bout à l'autre, après déjeuner le dernier jour. Il sort, et nous croyons avoir fait un disque qui devait vendre 500 exemplaires à des collectionnaires. Du coup, on avait fait une super belle pochette, un truc. Et au fait, la veille de la sortie, il y avait déjà plusieurs milliers de préventes. Et bon, le disque après a fait tout un truc au niveau mondial. Sans le vouloir, je me suis retrouvé lié à ce répertoire. Mais ça, je m'en suis rendu compte les années passant. Mais aussi, c'est un disque dont je ne suis pas très fier, en vrai. Parce que je n'ai pas bien joué, parce que j'ai eu des problèmes, je n'ai pas su gérer ma séance d'enregistrement, je ne savais pas comment parler à l'ingénieur du son. Quand le disque est sorti, d'autres pianistes qui étaient sortis du conservatoire étaient censés jouait plus que moi. Du coup, moi, je suis sorti là-dehors avec un disque qui a vendu des dizaines de milliers d'exemplaires et j'avais pas un seul concert. J'ai fait mes heures d'intermittent en faisant du piano bar rue Dauphine. Mais j'étais dans toutes les radios. On me file même les victoires du jazz la veille du jour où, pour la première fois, Le Pen est passé au deuxième tour avec Chirac. Ce qui refait vendre, parce que le lendemain, mon disque était à nouveau sur toutes les playlists. Et ça remis un tour à ce truc que j'assumais à moitié, avec lequel j'avais déjà une relation complexe, puisque, eh bien, le disque avait peut-être marché, mais moi je faisais du piano bar. C'est compliqué à gérer. Et enfin, voilà, l'année de la sortie de l'album, j'ai fait un seul concert à 150 euros brut, d'ailleurs. Mon première partie d'un groupe de free super bizarre à Nancy. Et c'était tout. Eh bien, voilà. J'ai donc construit une relation un peu difficile avec ce disque. J'ai commencé véritablement à jouer ce répertoire 10 ans après. Quand on a vraiment commencé à me le demander. Et puis, bon, ça m'a valu aussi des trucs un peu sympas, comme par exemple ma carrière au Japon, et qui m'a permis de rayonner ensuite sur la Corée du Sud, sur la Chine, etc. J'ai fait une belle carrière en Asie, grâce à ces deux premiers albums, en fait. Mais du coup, voilà, j'ai vécu ce disque d'une façon un peu particulière, tout en étant très attaché à ce répertoire. On m'a plein de fois, on m'a dit, mais pourquoi tu joues pas cette musique? Mais moi, à un moment donné, j'ai dit, mais enfin, ça fait quand même des années que je le fais. J'aimerais bien qu'on écoute plus ce que je compose. J'ai fait d'autres choses, j'ai avancé. Et ça a duré longtemps. Jusqu'au jour, l'année dernière, où j'ai fait la tournée internationale habituelle. Et je suis allé au sud du Japon. On m'a demandé de jouer à Avanti. J'allais à Buenos Aires. On m'a fait signer des Avanti, mais vous n'avez pas joué le Pueblo Unido. J'arrive jusqu'à mon propre bureau, puisqu'entre-temps, j'ai fondé un label, et mon attaché de production, Océane Forge, me dit, mais pourquoi tu ne réenregistres Avanti? Et moi, qui normalement était plutôt du genre à dire non, je me suis dit, mais c'est bien sûr. En fait, ça fait 25 ans que je l'ai fait. De fait, j'ai fait certaines versions qui sont les versions de référence. Pour les 30 ans de la chute du régime chilien dans le célèbre stade où on coupait les mains aux collègues, on a passé ma version d'El Pueblo Unido. Donc, je me suis dit, au fait, il va falloir que j'assume un truc. En plus, la saison me semble propice pour jouer des musiques antifascistes. Je trouve que je ne sais pas pourquoi, je trouve que ce 2026 est plutôt... Voilà, moi j'ai envie de l'ouvrir, comme je l'ai toujours fait, mais d'une façon peut-être un peu plus claire, parce que ce que je dis souvent, c'est que je trouve que ma génération ne l'ouvre pas assez. Mais mes chers collègues, n'ont pas vraiment brillé pour leur engagement. Je me suis dit, pourquoi pas? Et pourquoi ne pas refaire exactement le même disque, sauf que ça fait 25 ans que je fais du piano solo, et que maintenant, c'est moi. Et en plus, maintenant, je vais le sortir sur mon label, comme a pu le faire... comment il s'appelle? Taylor Swift. Parce que, il faut savoir aussi que les droits sont partis au Japon. Moi, je ne peux pas acheter Avanti au producteur. Il faut que j'aille dans un magasin à Tokyo où je le paye 30 euros. Et 6 mois après, je vais arriver de mes 30 euros, 80 centimes de royalties. Mais je ne peux pas y accéder. C'est-à-dire, j'étais même dépossédé de mon œuvre, ce qui est malheureusement très commun quand on fait mon métier. Mais il n'en est pas moins que c'est tout de même... ça fait partie du traumatisme, en fait, que j'avais pu développer sur le premier Avanti. Et du coup, je me suis dit, non, ben là, je vais faire ça bien, tiens. Et j'ai réenregistré exactement la même setlist. J'ai choisi un piano très beau, un studio avec des gens très bien. Puis bon, j'ai quand même... Aujourd'hui, j'ai les cheveux blancs et une certaine expérience, on va dire. Donc, je ne suis plus trop... J'ai plus trop de doutes existentiels, plus que ça, on va dire, par rapport à la musique, j'ai tout enregistré. Et du coup, ça s'appelle Più Avanti. Ce qui veut dire aussi bien plus loin que plus tard. Plus tard, on dit più avanti con l'età. Plus tard avec l'âge que plus d'avanti. Et je viens de sortir.
Alors,
voilà l'histoire.
Bravo. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement la difficulté des jazzmen d'une manière générale. Et si on n'est pas dans un tunnel de réussite, ça, c'est un peu compliqué. Je recevais lors du dernier Jazz Lib Riccardo Delfra, qui est aussi un Italien immigré, enfin qui est devenu presque français, on va dire. La question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu es venu en France et que tu es resté?
Alors, plusieurs raisons.
Si c'est pas totalement indiscret.
Non, de toute façon, aujourd'hui, on vit à l'époque d'Instagram où tout le monde montre ses fesses du matin au soir. La définition même de la question indiscrète n'a plus lieu d'être.
Moi, je suis très old school, hein, donc voilà. J'ai pas Insta. Enfin, j'ai Insta, mais je.
Bon, personnellement, je ne montre pas mes fesses sur Instagram. Je me fais même faire mes posts par un professionnel. Je ne mets pas ma vie privée. Mais c'est vrai que d'une façon générale, qu'est-ce qu'indiscret alors que tout le monde va raconter sa vie, mais vraiment, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que t'as mangé à midi? Enfin bon, voilà, je vais clore cette petite parenthèse. Pourquoi je suis venu en France? Je suis venu en France pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma famille m'a empêché d'être musicien.
Wow.
De toute leur force. Mon grand frère pouvait l'être. Moi, je n'avais aucun talent et aucune chance. Et ta gueule. Donc, en réalité, je ne partageais pas leur point de vue, on va dire, poliment. Du coup, j'ai rencontré un soir, toujours en déambulant dans cette belle ville qui est la mienne, mais un peu plus tard, Più Avanti, on va dire, une très jolie fille allemande qui voulait elle aussi voir le monde pour ses 20 ans. Putain. Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Je lui ai offert un petit week-end à Paris. Moi, j'en avais 21. Et ça nous a plu. On s'est dit, si, en vérité, on venait tenter notre chance ici. N'oublions pas que ce jour-là, en plus, la France était socialiste. Ce qui, quand t'es en Italie, est plutôt un cool. Parce que, bon, nous, notre parti socialiste a disparu avec l'un des plus grands voleurs de l'histoire d'Italie, qui s'appelait Bettino Craxi, qui est d'ailleurs, qui est décédé en exil, parce que avec l'opération Main Propre, en fait, on s'est rendu compte que c'était l'un des plus grands bandits de l'histoire d'Italie. Et même aujourd'hui, on ne veut pas de son corps. La famille essaie de rapatrier le corbillard, ils n'y arrivent pas. Et franchement, ce qu'il y a, d'un jour à l'autre, la gauche, on va dire, voilà, le Parti Socialiste, des années 90, ça je dis bien, a disparu de la carte. Pouf! Et du coup, moi, j'aimais bien Mitterrand, j'aimais bien, en plus, toute cette politique culturelle dans tous les sens. Et puis, n'oublions pas qu'en dehors des politiques culturelles françaises, Paris fait vraiment partie de la cartographie du jazz. Paris est une des capitales, c'est certainement la capitale européenne du jazz, et c'est l'un des lieux, avec New York et Tokyo, où l'histoire de cette musique a été écrite, hein. Enfin, bon, New York, il y a la Nouvelle-Orléans, bien sûr, il y a plein d'endroits aux États-Unis, parce que c'est musique vraiment américaine. Mais c'est vrai que Miles Davis traînait au Café de Flore, hein, et bien d'autres, mais même Django Reinhardt, mais même on va parler de, je sais pas, de Sidney Bechet, on va parler comment ça s'appelle? La danseuse chanteuse très célèbre Josephine Baker, beaucoup de pages de l'histoire de cette musique ont été écrites vraiment à Paris. Il y a une véritable histoire d'amour entre les Parisiens et ensuite les Français et le jazz, et inversement entre les grands jazzmen et Paris. Ce qui fait que c'est une plaque tournante extraordinaire. Moi, encore aujourd'hui, je suis très heureux. Et nous, les Italiens, qui sommes tous arrivés un peu en même temps avec l'arrivée de Berlusconi, parce que c'est vrai que ça a été un motivateur puissant pour se dire, mais si on prenait un train de nuit avec un billet de seul aller et qu'on allait voir ailleurs si on y était.
Nous aussi, on l'a eu Berlusconi.
Et on a été...
je dirais plutôt Berlusconnerie, mais bon.
Voilà. Et du coup, on a vu apparaître tous ces jeunes loups de la scène italienne, comme Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Emanuele Cisi à l'époque. Bon, Paolo, il était déjà... Paolo Fresco, il avait déjà un pied dedans depuis la fin des années 80. Et bien d'autres... Rosario Giuliani, avec qui je joue pas mal en ce moment. Puisque d'abord c'était là que ça s'est passé, puis parce qu'en vérité on n'avait plus du tout envie d'être là-bas. Alors il se trouve que cette envie d'être là-bas ne m'est pas revenue. Moi j'ai promis le jour où je me suis monté dans ce train de nuit, tant que Berlusconi est élu, je n'y retourne pas. Il s'est fait élire pendant 20 ans d'affilée. Au bout des 20 ans, j'avais quand même fait une vie, quoi. J'avais des enfants, une carrière. Donc, je n'avais plus aucun véritable attache. Et par deux fois, j'ai fait l'erreur de me dire, ouais, mais faudrait quand même que je passe la tête et que je fasse des trucs. Et je l'ai profondément regretté. Puisque 20 ans de Berlusconi ont tout de même passé la tête des Italiens au napalm, quoi. Et après lui, ça a été vraiment le déluge. Et aujourd'hui, mon expérience est beaucoup tournée en Italie l'année dernière, donc avec Rosario. Je fais même le festival de ma ville, le célèbre Umbria Jazz, tous ces trucs-là. Et je pense que je ne peux jamais y retourner.
Ah oui.
Et pourtant, c'est très beau. Hein.
Oui. Moi, je connais bien. Mais... Depuis fort longtemps, moi qui suis le plus vieux de cette assemblée... ça fait 60 ans que j'y vais, donc...
Qu'est-ce qui t'y attache encore, Giovanni?
À part le fait que rien ne m'y attache. Mais, qui plus est... Comment te dire? C'est devenu... la guerre. Tu vois, le problème... Tu vois, je pense à la chanson de Reggiani, « Les loups ». Ça décrit très bien comment ça marche. C'est parce qu'il n'y a plus de lien social, c'est parce que les gens ne savent plus s'aimer, que les loups sont entrés dans Paris. C'est pas dans l'autre sens que ça roule. Tu vois ce que je veux dire? C'est le déclin de la mentalité des gens et du coup le lien social qui se défait, qui fait que les fascistes... Mais, oui, les Italiens ont 20 ans d'avance. C'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, aujourd'hui, les fascistes sont au gouvernement en Italie. Meloni est néo-mussolinienne, assumée. Je veux dire...
Oui, c'est...
Voilà, alors que... C'est... Je vais dire un truc aux gens qui nous écoutent, qui peut-être ne le savent pas. Dans la Constitution italienne, il y a un article qui dit qu'il est fait interdiction... de faire l'apologie du fascisme, de remonter le parti fasciste, de faire référence aux personnages et à l'iconographie fasciste. Et pourtant, notre Premier ministre, c'est-à-dire votre président, dit être néo-mussolinienne, ce qui est totalement anticonstitutionnel à la télé, et ça ne choque personne.
Oui.
Donc bon, voilà, on a perdu.
Oui, moi j'ai... Enfin bon, j'ajouterais que depuis le temps que je vais en Italie, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est une société très individualiste. La famille fermée sur elle-même. Et,
oui, après, voilà, si on veut pousser un peu plus loin, de toute façon...
Presque clanique, un peu.
De toute façon, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Italie, il n'y a pas d'État. L'État est d'une absence remarquée. Et remarquable en général partout, ce qui fait que le socle de base de la cellule de base de la société, c'est la famille. ce qui ramène tout un tas de problèmes déjà dans la tête des gens qui vivent chez leurs parents jusqu'à 35 ans et qui sont complètement incapables de prendre la moindre décision et puis vont voter pour des gens que t'as pas aidé. Et pour la faire courte, et aussi, enfin, la cellule économique de base, c'est la société. L'État est extrêmement répressif du point de vue fiscal, ce qui fait que tout le monde est obligé de ne pas payer des impôts, parce que si tu payes tous tes impôts, t'as plus de quoi manger. Du coup, on s'enferme dans un monde qui est parfaitement illégal au sein de la famille. Tout se passe à l'intérieur des familles. Si tu veux partir de chez toi, tu te maries. Et puis papa et maman, des deux, vont essayer d'acheter l'appartement avec, va savoir qu'elle travaille au noir. Parce que c'est ça, oui, en fait. Oui, voilà. C'est un monde assez moyenâgeux, en vrai. Qui crée des mentalités assez particulières. Et puis, on parle souvent du mérite. En France, on s'en plaint beaucoup, d'ailleurs, et pour cause, mais... Ben, en fait, en Italie, si tu t'appelles pas d'une certaine façon, si t'es pas le fils de tel, machin, même dans la fonction publique, le père transmet la place au fils. Hein. Ouais, ben, ça, alors, il y a tout, hein. Il y a les graduatories, il y a les bancs des concours, etc. Mais finalement, ce sera toujours le fils du patron qui a le gig. Donc, voilà.
C'est un peu partout pareil, ici aussi.
Ben non.
C'est la loi Salique.
Et non, c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai.
Je suis pas aussi optimiste.
Il faut pas confondre le niveau. Parce que justement, dire que c'est pareil ici, ça pourrait donner l'envie de ne pas défendre un système qui en réalité fonctionne.
Si, si, c'est pas ça, hein, mais je trouve que, comment dire, le système est de plus en plus bloqué.
Le système est de plus en plus bloqué, mais en réalité, il y a encore un État fort qui a des lois qui sont en vérité respectées, et quand ils ne sont pas respectés, il y a quand même moyen de les faire respecter. Bien que, effectivement, surtout du côté sécuritaire, ça va être de pire en pire, etc., etc., et bon, on connaît. Je ne suis pas en train de défendre aveuglément un certain système, il n'empêche qu'ici, on peut encore se défendre. Et que malgré tout, la France est encore un pays de droit où il y a des choses à défendre. C'est surtout ça. Je pense qu'en Italie, il n'y a plus rien à défendre, en fait. Il n'y a plus rien à défendre. Moi, personnellement, je ne veux plus y aller.
Bon.
Mais ici, on peut encore sauver des bouts de trucs. Parce que, bon, mine de rien, la Révolution française, on l'a faite ici. On ne l'a pas faite là-bas.
Oui, et je pense qu'il faudrait continuer.
Voilà.
D'ailleurs, ce que je dis, c'est que la Révolution française, c'était la première étape, la Commune, la deuxième, reste à passer à la troisième. Et comme ici, nous sommes à Radio Libertaire, je te propose de faire une pause musicale.
Allez.
Et qu'on commence, parce que ici, c'est symbolique, par le temps des cerises, évidemment.
Avec plaisir.
Donc, Franck, si tu veux bien, ce sera la numéro 4. Et c'est parti.
Thank you.
Jazz Libre Radio Libertaire 89.4 et avec Giovanni Mirabassi en invité. Et alors, tu avais commencé à nous dire un truc hors micro, mais hop, tu as tout de suite freiné en disant on va le dire à la radio, donc tu as la parole.
Oui, parce que en écoutant donc Le Temps des Cerises, j'ai repensé à ma jeunesse, où je folâtrais sur la butte aux Cailles. Et le premier endroit où j'ai joué à Paris, c'est un café à un art qui s'appelle la Folie en Tête. Je pense que bien des gens qui écoutent cette radio le connaissent. Et lorsque je jouais là, j'ai joué un peu avec mon trio, je jouais avec un chanteur local de la butte. Je me disais, j'aimerais bien un jour emmener un vrai piano et faire un vrai concert ici. Et j'avais un peu ce rêve de faire ça. Je l'ai sans doute proposé à l'époque à mon producteur qui n'a pas saisi l'intérêt de la chose, d'autant que j'étais jeune artiste et que c'était quand même une opération un peu onéreuse. Mais du coup, eh bien, je l'ai fait. Et du coup, j'ai fait livrer un piano de concert dans ce tout petit café. D'ailleurs, il a fallu mettre le public sur scène puisqu'il n'y avait pas de place pour le piano et mettre le piano au milieu de la salle. Et du coup, voilà, je suis allé à la Folie en Tête faire le concert de pré-sortie de ces disques. D'ailleurs, c'était d'autant plus jouissif qu'il y avait quand même, je dirais, 80% du métier du jazz parisien. Ils étaient tous amassés dans un café à Nard de la butte aux Cailles. C'était alors, assez marrant.
J'y étais parce que j'ai fait quelques photos que j'ai postées sur ma page. Et mais ça avait une dimension particulière pour moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai fait mes études juste en face à l'école Estienne, qui était rue Abel-Ovelin, qui est boulevard Blanqui, juste à l'angle. Et avec mes copains, parce que moi je suis beaucoup plus vieux que vous tous, où ça discutait politique extrêmement sévèrement entre les trotskistes, les anards, dont je faisais partie, les cocos, enfin il y avait un peu de tout. Et on se tapait pas dessus, c'est ça qui était plutôt rigolo, mais on était tous très solidaires pour virer les fachos, donc voilà. Et donc on a traîné nos guêtres dans toutes ces rues, dans tous ces troquets, dans ce quartier qui était pas du tout comme il est maintenant. Hein,
c'est sûr.
Parce que moi, mes études remontent de 71 à 75. Hein. J'ai 71 ans, donc...
Ah oui, tu le fais pas.
Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, ça avait un côté un peu émotionnel de revenir dans ce quartier que je ne fais que traverser rapidement. Mais là, d'y rester, du coup, avant de reprendre le métro, j'ai fait un petit tour comme ça. C'était assez, assez étrange, quoi. Assez émouvant, plus la thématique, évidemment. Donc, voilà, ça faisait beaucoup de choses, ce qui fait que je suis un peu rentré comme ça, tout seul, avec mes idées en tête.
Ben, moi, j'ai fait un peu la même, hein. Je suis revenu sur les lieux du crime, d'autant que, enfin, moi, quand je jouais là-bas, j'avais 23 ans, quoi. 23 ans, ça me semble tellement lointain. Ben, ça l'est d'ailleurs, c'est ça le problème. On va réaliser, c'est pour ça que ça fait mal. Mais d'un autre côté, et voilà, j'étais... Comment dire? Je suis revenu sur les lieux de ma jeunesse, et puis c'est quand même un lieu assez incroyable. Bon, à l'époque, c'était Ramon Pfister qui l'avait ouvert. Moi, je connaissais ses enfants, donc sa fille qui n'est plus, qui était chanteuse, Clara Pfister. Mais son fils s'appelle Liberto. Je veux dire, c'est quand même it's a statement, comme disaient les Américains, d'appeler son fils Liberto. Il y avait et il y a toujours cette forte connotation. Et qui m'est tellement familière. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que ça a été les premiers à m'ouvrir la porte. Ça n'a pas été les clubs de la rue des Lombards, hein, qui m'ont invité à jouer leur piano. Mais c'était les gens du café anarchiste.
Et ben voilà, c'était un juste retour des choses.
Et il fallait que j'y retourne, exactement.
Mais en plus, il était temps de venir dans cette radio.
Ben, mais je suis venu au fil des années. Mais je ne connaissais pas ces locaux. Moi, je me souviens de lieux qui était devant le 104, là-haut, là, dans le 18. Me trompe, je...
Alors, Moi, j'ai pas connu les... Mais c'était vers Montmartre, par là.
Oui, c'est ça. Dans le 18e.
Alors, j'ai une question pour revenir sur la musique. D'abord, le fait de refaire, de remettre ses pieds dans ses propres traces, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile ou au contraire extrêmement facile?
Honnêtement, j'étais très inquiet parce que justement, je suis allé remuer des vieilles blessures compliquées. Mais en vérité, j'ai très bien fait, je suis très content. Et exceptionnellement, et c'est rarissime, je suis assez fier de mon album, ce qui ne m'arrive jamais. Alors, et d'ailleurs, j'en parlais hier avec un copain, parce qu'on a vu ce beau film sur la productrice du Cone Concert. Et on connaît tous l'histoire de Jarrett qui n'a pas aimé, et que du coup, dans ce film-là, il n'y a pas une note du Cone Concert. Et je me suis dit, putain, c'est dommage qu'il soit trop tard, j'aurais dû dire à Jarrett, il faudrait que tu le refasses ton Cone Concert. Tu vas vivre beaucoup mieux. Et s'il, je suis sûr que s'il l'avait fait, il aurait été beaucoup moins chiant avec le public, parce qu'il se serait mis là, mon paix.
Maybe.
Mais malheureusement, voilà, je me suis pris trop tard à le faire moi, et du coup je n'ai jamais pu lui écrire cette lettre en disant « Retourne à Cologne, un dimanche soir vers 11h, à l'opéra, on te file le vrai piano qu'on aurait dû te filer l'autre fois, et tu ne le refais !»
Et on remet la sonnette pour...
Et tu vas voir que ta vie va être beaucoup plus simple, et la nôtre aussi.
Et donc, le complément la question que je pose toujours, c'est toujours la question piège ou la question bateau que je pose à tous les musiciens qui viennent ici, c'est qu'est-ce que ça fait de se réécouter? Donc tu as répondu.
J'ai horreur de ça.
Voilà.
Je ne le fais jamais. Il y a tellement de gens à écouter, ça me semble une énormité de s'écouter soi-même. Je le fais parce que c'est mon métier. Et d'ailleurs, je dis toujours, le grand problème, c'est les émissions de radio, parce que inévitablement, il faut que tu écoutes ton disque. Sinon, moi, je valide le mix, je valide le mastering, et puis, normalement, bon, je fais écouter ça à 3 ou 4 personnes autour de moi, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, je suis obligé d'être là. Mais en général, j'écoute jamais mes disques, ça me prendrait jamais de rentrer à la maison et dire, tiens, je vais m'y réécouter.
Mais petit Jérémy Mirabassi.
Oh, mais non, mais jamais. Mais ça, c'est, enfin, justement, je mets Jarrett, tu vois. C'est beaucoup plus marrant. Et voilà, donc je te réponds à la question. C'est horrible de se réécouter.
Oui, oui, je sais. Je connais, moi je ne me réécoute jamais non plus.
Voilà.
Ni en voix, ni en musique. Parce que je suis aussi pianiste, donc c'est une chose que je ne fais pas. Ou vraiment très ponctuellement.
De toute façon, je ne joue pas pour... Enfin, ce serait faux de dire que je ne joue pas pour moi, mais en général, c'est comme quand tu cuisines. La musique est une expérience sensorielle de partage basée sur l'amour. Le faire seul, c'est peut-être marrant, mais c'est, en réalité, d'une façon générale, on nourrit les autres. On le fait pour les autres. La musique, c'est un peu la même.
Alors, je vais paraphraser. Un collègue, quand le Libération Music Orchestra a sorti son premier album, c'était en 69, je crois, le chroniqueur de l'époque avait dit « Cet album va nous aider à passer les années 70 ». Puis après, le Libération Music Orchestra a refait, au début des années 80, un deuxième opus. Et le chroniqueur avait dit « Le premier avait nous aidé à passer les années 70, celui-là va nous aider à passer les années 90 ». Je trouve que celui-ci va nous aider à passer les années 2020.
Merci, je suis honoré. D'ailleurs... Je suis un fan délirant de Charlie Haddon.
Qui ne l'est pas?
Et aujourd'hui, je ne l'ai pas enregistré, mais je peux peut-être le faire sur les New York Sessions. On va voir. Mais aujourd'hui, dans les concerts de ce disque, je fais une intro et je joue le Silence de Charlie Haddon pour rendre hommage au bonhomme qui a fait quand même la Liberation Orchestra, qui est un peu notre papa à tous.
Certes. Alors justement, on va écouter le premier, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Frank, when you want.
Relaxant.
Jazz Libre Radio Liberté. 89.4, pardon.
J'espère que les micros étaient fermés.
Non, les micros étaient fermés. Oui, on parlait, et moi je suis extrêmement attentif à ça, de la qualité de son, parce que je trouve que certains ingénieurs du son, bon, beaucoup moins maintenant, parce que, mais il y a eu toute une période de transition entre l'analogique et le numérique, où certains ingénieurs du son, on aurait pu les pendre, ça aurait été plutôt un bienfait pour l'humanité, alors que là... Je trouve que globalement, ça, c'est pas globalement, le son est bon. La présence du piano est vraiment excellente. Et moi, c'est souvent ce que j'ai reproché dans certains enregistrements de musique classique, de piano solo, notamment les dernières œuvres de Vlado Perlmutter sur Forêt et Ravel. J'ai trouvé que le son était un peu très loin, le piano était à 200 mètres, que ouais. Là, on est vraiment complètement plongé dedans.
Et... Les classiques, ils aiment bien quand c'est vague. Pourtant, ils sont très précis, hein.
Ben, ouais.
Mais ils mettent les micros à 20 mètres pour avoir le son de la salle.
C'est horrible.
Alors, bon, nous, c'est pire, parce que nous, on met les micros dedans. Ce qui fait que t'entends tout. Mm. Et ensuite, on rajoute de la réverbe. Donc, c'est un peu frontal comme truc. Parce qu'effectivement, la moindre imprécision, ça s'entend. Quoi. Alors que c'est sûr que si mon micro il est au milieu de la salle, si dans la descente en triple croche, j'en rate une, mais personne ne le saura jamais. Alors que là, bah, tout le monde va le savoir. Mais bon, moi, je trouve aussi qu'il y a eu beaucoup trop d'aigus dans toutes les années 90, par exemple. C'est-à-dire que quand on a inventé le CD, ça avait des possibilités techniques telles que plein d'ingénieurs du son se sont amusés avec, à mettre des fréquences qui franchement ne servaient pas à grand-chose.
Ah oui, il y a des trucs hallucinants, comme les repiquages de Kind of Blue en 24 bits.
24 bits qui sont...
Le truc, ça faisait grincer des dents et des massages ventraux. Bon, alors...
Et bon, voilà.
Les
bon,
deux en même temps, quoi.
Il faut dire que... j'ai produit la quasi-totalité de mes disques au niveau technique, c'est-à-dire que j'ai eu des producteurs, mais beaucoup de mes producteurs m'ont délégué la production, donc j'ai fait beaucoup de studios, et aujourd'hui j'ai un label et je suis assez sensible à la production des choses et au son, du coup et puis je trouve que c'est très important, en plus que le label ait un son. Parce que si on écoute les grands labels, que ce soit Blue Note ou Impulse ou ECM, etc., ça reste quand même une empreinte sonore. Mm-hmm. Ce sont des choix esthétiques spécifiques. Et c'est un peu ce que je recherche. Et puis bon, ce studio-là est particulier. C'est un studio associatif de gens un peu comme nous. Hein. Ils ont un piano incroyable, un Steinway D d'une grande beauté. La personne qui fait le son est un pianiste. Un vrai pianiste, pas un pianiste raté comme la plupart de ceux qui sont dans les studios, mais un véritable pianiste qui joue.
Un pianiste raté et faire quand même le job intelligemment.
Oui, mais c'est quand même... ça serait beau. Ça se saurait. Si la nature humaine était foncièrement bonne, oui, nous le saurions. Après, il y en a qui sont géniaux. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens formidables dans les studios. Mais il y a aussi pas mal de tordus. Et là, encore une fois, j'en ai fait le tour. J'ai eu la chance de faire une carrière assez vaste, même au niveau des genres musicaux. Je suis allé dans tous les plus grands studios. J'ai enregistré à Abbey Road, à Rainbow Studio, à Systems 2, à Sears Studios. Enfin, tous ces trucs célèbres qui sont marqués sur les... Et c'est vrai que j'ai eu des grands moments et des moments de grande solitude. Et là, j'ai trouvé mon bonheur, surtout pour faire du piano solo, il faut aller à Malombo, à Bois-Colombes. Voilà, il n'y a pas... Ou du moins, je conseille le pianiste qui écoute et qui veut faire un piano solo, une toute petite formation, d'aller écouter ce piano. Et les prises de son qu'ils font là.
Alors, à ce propos, Ça va m'amener à deux questions. C'est, tu n'avais pas eu envie de refaire ce projet de manière complètement différente, justement, de repartir sur... parce que là, on est vraiment dans... Tout est la pochette, l'ordre des morceaux, tout est...
Alors, en vérité, j'étais reparti pour tout refaire pareil. J'ai demandé au producteur du premier disque de refaire la pochette. J'ai demandé au studio où j'avais enregistré de leur disponibilité, mais en vérité, ça s'est bien passé, finalement. Et je me suis dit non, en fait, non. Et du coup, j'ai changé de studio et j'ai changé de graphiste. Alors, la pochette ressemble, puisqu'il était difficile de s'éloigner de l'original, mais ce n'est pas la même personne qui l'a faite. C'est une jeune femme, d'ailleurs, toute jeune, qui, je ne suis même pas sûr qu'elle ait terminé ses études. Parce qu'en plus, il faut dire une chose, place aux jeunes. Je suis extrêmement sensible à l'idée même de la transmission. J'ai eu une vie compliquée, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont donné mes ailes. Notamment le grand pianiste Aldo Ciccolini, ou Charles Aznavour, ou des gens qui étaient vraiment très installés et qui gratuitement te montraient la voie, parce qu'il fallait le faire. Et du coup, j'ai voulu faire ça. Je travaille avec l'ingénieur du son qui a fait le mix de ça, est un mec qui a une trentaine d'années, qui s'appelle Arthur Gouret, qui est très très fort, qui travaille d'ailleurs au studio Sextant, qui est aussi un studio avec un très beau piano, qui fait les mix et les prises de son de la plupart des disques de Jazz Eleven, qui est mon label, dans lequel aussi je signe des artistes jeunes, comme par exemple Marc Prioré, dont on va sortir le troisième disque bientôt. Et j'aime bien ça. J'aime bien donner sa chance à des gens qui ne l'ont pas encore eu. Je m'excuse avec ceux à qui j'ai fait un peu faux bond, mais en vérité, j'ai préféré repartir d'une page presque blanche et refaire ça en m'entourant d'énergie nouvelle. Nous, on a fait notre temps, d'un certain point de vue. Je veux dire, bon, moi, je suis pianiste, nous, je fais partie d'une catégorie qui ne prend pas sa retraite. Vaut mieux pas. Tous mes amis qui ont pris leur retraite l'ont prise un peu trop loin, on va dire. Mais assez vite. Donc je compte bien continuer à jouer puisque c'est structurel. C'est la musique qui nous dicte notre condition plus que l'inverse. Mais d'une façon générale, je préfère travailler avec les jeunes, mais mille fois.
Alors à propos de jouer justement, le prochain concert, si je ne m'abuse, c'est le 11 juin au Bal Blomet, c'est ça ?
Oui, mais il est complet.
Ah !
Il a été très vite complet, et du coup on a fait des prolongations.
Alors les prolongations, c'est quand ?
Et donc je joue le 13 juin, je joue le 13 juin au Studio Raspail.
D'accord.
Voilà, c'est un nouveau lieu qui vient d'ouvrir et qui est un sunset hors les murs.
C'est un vieux lieu qui vient de réouvrir.
Voilà, exactement.
Pour être exact, c'est une salle de très, très jolie salle de 240 places qui est donc au boulevard Raspail. Et effectivement, on fait ça en collaboration avec Just Looking et avec le Sunside.
Ah, j'ai vu qu'il y avait aussi une salle dans le 13e, pas loin du quartier chinois, là, à Tolbiac. Je sais plus comment
ça. C'est le Jazz.
Oui, c'est ça.
C'est le Jazz Club qui a été ouvert par Alexandre Eddy, qui travaillait avant, qui était programmateur avant au 38 Rives, et qui a ouvert ce club avec Gloria, le Jazz.
C'est assez récent, il me semble.
Oui, c'est assez récent.
Oui, ouais, c'est ça, je suis tombé dessus par hasard.
Oui, il y a des nouveaux lieux dans le jazz.
Incroyable.
Il y a des nouveaux lieux qui tiennent la route, c'est surtout ça qui est remarquable, exactement. Notamment le 38 Rives, qui a trouvé un mode de fonctionnement qui fonctionne. Oui. Puis, justement, il y a toute la nouvelle scène joue là, en fait.
C'est une programmatrice extra qui s'appelle Elsa Viguier.
C'est assez fantastique, effectivement.
À l'origine de tout ça.
Très bien.
De toute façon, on n'a jamais eu aussi peu de thunes, mais il n'y a jamais eu autant de talent.
Oui, c'est ce que...
Ouais, c'est qui est plutôt bien, parce que l'argent, ça va et ça vient, mais le talent...
Oui.
On n'a pas de pétrole, mais on a des jazzmen.
On a des super jazzmen, pauvres et heureux.
Alors, ouais. le temps passe, il faut quand même qu'on écoute quelque chose. Alors, je suis très partagé parce que parce que le chant des partisans, si je l'écoute, je vais être obligé de m'isoler un peu. Donc, on va écouter. Vous voyez la chanson de Léo Ferré que j'aime bien. Je chante pour passer le temps.
Allez, j'aime c'est ma chanson cette, préférée.
J'aime bien cette cette version.
Là, t'en as une.
Et
chanson préférée. Titre oui. préféré.
Puis après, j'aurai une. Et après, j'aurai une autre question. C'est parti, Franck. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4 avec Giovanni Mirabassi dans nos studios pour Più Avanti, dont je vous recommande chaudement, mais alors très chaudement, d'aller l'écouter, parce qu'il faut écouter les musiciens lors de leur vivant, plutôt que les écouter quand ils sont morts. Et puis de vous procurer cet album qui va évidemment aller dans le sens de la beauté et de l'engagement. Voilà, c'est vraiment deux choses qui sont importantes. Et puis, comme je dis toujours, les jazzmen peuvent prendre n'importe quel thème et puis se l'approprier pour en faire une œuvre tout à fait personnelle. Alors là, ce que je peux noter dans cette version de Je chante pour passer le temps, c'est que sur le moment un peu forté, il n'y a pas de crispation ni de saturation sur les aigus. Et ça, c'est toujours un peu compliqué en tant qu'enregistrement. Quelquefois, ça frise. Alors moi, qui ai un très beau système chez moi pour écouter, j'ai vraiment apprécié parce que je me le suis mis. Alors moi, j'écoute pas très fort, mais avec beaucoup de relief, je me le suis mis au volume de ce que donne un piano réel dans la pièce. Et non, franchement, c'est tout à fait réussi. Alors, j'ai une question un petit peu plus personnelle. Enfin, personnelle. Non, c'est en entendant ce disque au niveau pianistique, j'entends plein d'influences, évidemment, de Kef à McCoy. Quelles sont les grandes racines, voilà, pour être
alors. Je ne saurais pas te dire. Enfin, si. Bon. Il va de soi que le pianiste que j'ai le plus écouté, c'est certainement Bill Evans. Mais je n'en ai jamais, mais je l'ai jamais relevé. J'ai beaucoup écouté des gens qui ne sont pas des pianistes. Beaucoup. Notamment Charlie Parker. Les grands phrasés, mais même Pat Metheny par exemple, et même Astor Piazzolla, des gens qui se placent, qui font des phrases incroyables, qui ont des phrasés de fou, Gary Burton, je ne sais rien,
magnifique. Enfin,
tous ces gens là. J'ai été très 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 attiré par tout ce qui était mélodie pendant longtemps. J'ai commencé à avoir une pensée plus polyphonique, qui est toujours très mélodique, un peu plus tard, avec le temps, j'ai commencé à entendre plus du mélodie dans ma tête, on va dire. Après, voilà, moi, des gens que j'écoute, j'écoutais beaucoup Jarrett à une époque, forcément, j'écoutais beaucoup McCoy Tyner, lui aussi, je l'ai pas beaucoup relevé. Mais bon, ce sont des gens qui ont tellement marqué l'histoire que leur vocabulaire est rentré dans le vocabulaire général du jazz. Donc, forcément, moi, j'utilise des mots du vocabulaire qui sont courants et qui se trouvent ont été de fait créés par Chick Corea ou aujourd'hui même par Brad Mehldau, qui est l'un des derniers à avoir véritablement apporté sa pierre à l'édifice, ce qui fait que nous sommes tous, un jour, on va tous utiliser ce mot. Et c'est lui qui l'a un peu inventé. Après, moi j'ai beaucoup un pianiste qui s'appelle Fred Hersch. Justement dans magnifique. Qui d'ailleurs a un peu formé tous ces gars et qui a cette vision très polyphonique. Aujourd'hui j'écoute beaucoup Gonzalo Rubalcaba, qui est dans mon top 3 de ce que j'écoute, justement pour sa main droite de tueur, là. Une espèce d'approche mélodique complètement atonale et en même temps d'un grand lyrisme. Mais bon, voilà. En vérité, quand je m'écoute comme ça, je trouve que je ressemble de plus en plus à Kenny Barron, en vrai. Et je ne suis pas peu fier, parce que ça reste un de mes pianistes préférés. Hank Jones est un de mes pianistes préférés. J'aime bien les pianistes élégants, en fait. Jarrett, je l'ai beaucoup écouté, ça reste un génie, mais je m'en suis à un moment donné un peu détaché. Je suis vraiment revenu à Bill Evans, qui est un gars qui a toujours essayé de jouer mieux qu'hier. Ce qui est, je pense, en dehors de toute technicité, de tout discours harmonique, enfin on connaît tout ce qu'on peut dire sur Bill, c'est vraiment ce qui fait véritablement la beauté de sa musique, c'est sa pureté au fait. Et je suis de plus en plus dans cette démarche, en plus encore une fois c'est peut-être l'âge, mais je n'ai plus le goût de la frime.
Eh bien, c'est une bonne voilà. Résolution.
Je joue ce que j'ai envie de jouer.
Le temps passe. On va écouter quelque chose. Est-ce que toi, tu as envie de réécouter quelque chose ou
jamais.
Je choisis.
Je te laisse faire.
Je choisis alors. Alors, il y en a une que je trouve intéressante, c'est Johnny High Hardly New Year.
Ah, c'est vrai que je l'ai bien joué, dis donc. Ouais. Je l'ai pas écouté, mais pour le coup, je vais bien. Je crois, justement, tu parlais de McCoy. Je me suis barré dans un truc un peu comme ça.
Voilà. C'est une chanson qui a un peu bercé mon enfance, bizarrement. Donc, voilà. Donc, on va l'écouter. C'est la 12. C'est parti. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire 89.4, le temps file avec, évidemment, hein, comme toujours. Juste, on rappelle donc le 13 juin, qui est un samedi. C'est bien ça, Giovanni?
Oui, tout à fait. Samedi 13 juin à 21h au studio Raspail.
Voilà, donc boulevard Raspail. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours de route qui font que tu vas revenir bientôt dans notre studio?
Oh, certainement. J'ai l'année dernière commis un disque en trio qui s'appelle The New York Sessions. Et que j'avais envie de jouer des standards de jazz.
Ouais.
Parce que pendant longtemps, en tant que pianiste italien des années 90, machin truc, fallait jouer sa propre musique et tout. Et voilà. Et du coup, surtout, prendre du recul par rapport à ça, jouer les standards d'ici, et vas-y, Nino Rota, et Tarapouette, et Tarapouette. Et puis, moi, j'avais envie de faire un disque de standard. Et en vérité, je l'avais jamais vraiment fait. Et du coup, je suis allé à New York, j'ai appelé des copains, notamment Peter Bernstein, Gianluca Renzi et Colin Swanahan, et on a joué des standards.
Bravo.
Et du coup, pour me porter chance, j'ai appelé ça The New York Sessions Volume 1. Et du coup, c'était pour m'obliger cette année à faire le Volume 2.
Of course.
Et voilà. Et donc, je vais le faire. Je vais le faire en octobre. Du coup, certainement, je vais revenir au printemps 2027 avec quelque chose sous le bras. Voilà.
Eh bien, très bien, bravo. On attend ça avec impatience. Hein.
Voilà. D'ailleurs, il faudrait que tu aies le volume 1, parce qu'en vérité, comme je l'ai fait pour un label de Hong Kong, il n'est pas vraiment sorti en France. Il faut qu'on te l'envoie.
Oui, d'accord, très bien.
Nous le ferons.
Et même que j'en ai un.
Ah,
par pur miracle, je crois que j'en ai.
Merveilleuse.
C'est l'album de la consécration, le premier album de Standard.
Je propose. Grazie mille. Je propose. Je m'excuse, là, je suis un peu pris au. qu'on écoute en attendant. Qu'on écoute la butte rouge. Allez. C'est la butte rouge, c'est la 10. Voilà.
C'est un peu le tube du disque.
Oui, mais justement, ça fait partie de... Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. Il nous reste deux minutes juste pour nous dire au revoir. Merci.
Merci à toi de nous avoir invités.
Et au plaisir de te revoir très rapidement pour les New York Sessions.
Quand tu veux.
À la rentrée en septembre, et puis venez au boulevard Raspail pour t'écouter, parce que voilà, vraiment je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce disque qui sont à la fois du sensible, du politique et puis du beau piano, voilà. Donc bravo, merci Cécile d'être venue. J'ai pas souvent d'assaché de presse dans les studios, donc.
Ah bon, moi je.
Elle est inséparable. Nous sommes inséparables. Je ne vais nulle part sans mon attaché de presse.
Votre vie privée.
Non, c'est pas privé, c'est professionnel. Pour le coup, voilà, nous sommes inséparables dans les studios de radio, c'est bien sûr. Ouais. Après, voilà.
Formidable. Eh bien, merci, Fraterni Swing, soyez forts et rendez-vous dans 15 jours pour un autre invité, Thierry Maillard, pour son double album, pareil, et puis il y aura ensuite, début juillet, je l'annonce tout de suite, le réalisateur du film sur Michel Portal, Benjamin Delattre, et donc voilà, et puis cet été j'aurai ma playlist et puis un hommage beaucoup plus fourni à Sonny Rollins, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, merci, bye bye, Fraterni Swing et
ni Dieu ni maître,
exactement.
Radio Libertaire 89.4
Ypsilonia.
Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire.
J'ai oublié le nom de la radio.
Radio Libertaire.
C'est Ypsilonia. C'est Ypsilonia l'émission.
Sa diffusion porte en germe son effacement progressif.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, j'espère que vous êtes bien relax.
Radio Libertaire, la voix sans dénimée de la Fédération anarchiste.
Tchau!